Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est la conversion de l'eunuque éthiopien. Un pays africain qui est souvent mentionné dans la Bible, c'est l'Éthiopie. Le nom Éthiopie, quand il paraît dans la Bible, désigne un pays plus vaste que l'Éthiopie moderne. Il comportait non seulement l'Éthiopie, mais le Soudan actuel aussi. Aujourd'hui, nous verrons la conversion d'un eunuque éthiopien, un officier important dans la cour royale de ce pays. En fait, il était trésorier de la reine, ce qu'on pourrait comparer à un ministre de finances de nos jours. Il était aussi un adorateur dévoué du vrai Dieu, l'Éternel. Il avait en effet voyagé 2400 kilomètres, et là c'est l'aller simple, rien que pour adorer Dieu dans son temple à Jérusalem. Et même en voyageant, il étudiait les Écritures. Écoutez son histoire, qui se trouve en Actes 8, versets 26 à 39. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Une vérité qui est illustrée dans cette histoire est le fait que Dieu se sert des hommes pour sauver des hommes. C'est vrai qu'il y a eu l'intervention d'un ange pour produire cette conversion. Mais l'ange n'a pas prêché à l'eunuque. Il a plutôt dit à un évangéliste du nom de Philippe d'aller à sa rencontre. Philippe, le même prédicateur qui avait évangélisé les Samaritains et Simon le magicien, savait qu'il devait s'approcher du char de l'eunuque afin de lui annoncer l'évangile. En effet, Romains 1, verset 16 nous dit que « l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut ». Sans l'avoir entendu et accepté, aucun pécheur ne peut être sauvé. C'est aux hommes et non pas aux anges que Dieu a confié la responsabilité de prêcher cette bonne nouvelle. Comme 2 Corinthiens 4, verset 7 le dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, c'est-à-dire, nous ne valons pas grand-chose, nous les hommes. Nous ne sommes pas des vases d'or ou d'argent. Nous sommes faits de poussière, et nous retournons à la poussière quand nous mourrons. Mais en tant que chrétiens, nous portons un trésor sans prix, l'Évangile qui donne la vie éternelle. C'est un grand privilège et une grande responsabilité. L'eunuque était en train de lire un passage de l'Ancien Testament qui parlait de Jésus. Mais ne connaissant pas l'histoire de Jésus, il ne comprenait pas le passage. Et en fait, ce passage était particulièrement difficile pour les Juifs de comprendre, parce qu'ils avaient du mal à accepter l'idée que le Seigneur et Sauveur soit aussi quelqu'un qui souffre injustement. Or, le passage que l'eunuque lisait parle des souffrances par lesquelles le Christ sauverait les hommes de leurs péchés. Très naturellement, Philippe a donc commencé par ce passage pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. En prêchant Christ, Philippe a sans doute parlé de ce que Jésus a fait et ce qu'il a promis, mais aussi de ce qu'il a ordonné, y compris le baptême. S'il n'en était pas ainsi, comment l'eunuque aurait-il su qu'il avait besoin d'être baptisé? La bonne nouvelle de la mort et la résurrection de Jésus n'est pas une bonne nouvelle pour moi si je ne sais pas comment je pourrais être sauvé par ce qu'il a fait pour moi. Annoncer la bonne nouvelle comporte le fait d'annoncer les conditions que l'homme doit remplir pour recevoir le salut. Certaines personnes considèrent qu'ils ont prêché l'Évangile quand ils n'ont pas achevé le travail, n'ayant pas expliqué bibliquement comment recevoir le salut que Jésus apporta. Supposez qu'en brousse un jour vous rencontrez un homme qui s'est égaré et qui manque cruellement d'eau. Il meurt de soif. Si vous lui dites « J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a un puits caché à 500 mètres d'ici où l'on peut avoir de l'eau pure et fraîche. » Et puis vous vous en allez sans lui indiquer comment trouver ce puits caché. Vous ne lui avez pas rendu service. De même, si nous disons aux hommes que Jésus est mort pour les sauver, sans leur dire que c'est dans le baptême que l'on entre en Christ pour recevoir le pardon des péchés, nous n'avons pas encore fait notre devoir envers eux. Comme nous venons de le souligner, l'eunuque a su par l'enseignement de Philippe qu'il avait besoin de baptême. Voilà pourquoi il dit au verset 36 « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Beaucoup de personnes n'osent pas demander le baptême. Elles pensent que ce sont leurs enseignants religieux qui doivent décider et leur dire si elles sont prêtes à être baptisées. Mais la personne perdue dans le péché est la plus concernée, et elle a certainement le droit de prendre l'initiative à demander le baptême. La réponse de Philippe est aussi très significative. Il dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Acte 8, verset 37. La personne qui ne croit pas sincèrement en Christ ou qui ne comprend pas l'Évangile ne devrait pas être baptisée. Voilà pourquoi les bébés ne sont jamais mentionnés dans la Bible comme étant des candidats au baptême. Ils sont incapables de remplir la première condition, qui est la foi. Par contre, quand une personne croit réellement et accepte bien sûr les implications de cette foi, telles que la nécessité de se repentir et se soumettre au Christ, il n'y a aucun besoin d'attendre avant d'être baptisé. Philippe n'a pas suggéré que l'eunuque suive premièrement des cours de baptême ou un catéchisme de plusieurs mois. Il n'a pas dit « Il faut que ton comportement soit étudié pour un temps afin de déterminer si tu es sincère avant de t'admettre au baptême. » Il a dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » En réponse, l'eunuque a fait ce qu'on appelle la belle confession. Il dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Le jeune homme Timothée a fait cette même déclaration. En 1 Timothée 6, verset 12, Paul l'exhorte « Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Dire que nous croyons en Jésus est nécessaire. Jésus lui-même dit « Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Luc 12, versets 8 et 9. Pour terminer l'histoire de l'eunuque, Actes 8, versets 38 et 39 dit « Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. » Cet exemple nous montre très clairement que le baptême biblique est une immersion dans l'eau. Depuis plusieurs siècles, certaines églises font avec de l'eau d'autres cérémonies, qu'elles appellent aussi le baptême. Généralement, on met un peu d'eau sur la tête de la personne qui reçoit ce soi-disant baptême par aspersion. Le pasteur d'une telle église a dit une fois que le fait que Philippe et l'eunuque descendirent dans l'eau ne prouve pas que l'eunuque fut immergé. Selon ce pasteur, l'eunuque aurait pu être aspergé. On demanda au pasteur si, pour baptiser quelqu'un par aspersion, il descendait lui-même dans l'eau et immergeait une bonne partie de son propre corps, ainsi que du corps de l'autre personne, afin d'asperger quelques gouttes sur la tête du candidat au baptême. Le pasteur dit que non. Quand on lui demanda pourquoi pas, il dit qu'il avait trop de sens commun pour agir de la sorte et qu'il serait déraisonnable de descendre dans l'eau avec une personne simplement pour l'asperger. On lui demanda alors si Philippe n'avait pas de bon sens puisqu'il est descendu dans l'eau avec l'eunuque pour le baptiser. Évidemment, Philippe a immergé l'Éthiopien. En effet, selon Romains 6, versets 3 et 4, nous sommes par le baptême ensevelis, enterrés dans l'eau en quelque sorte. Oui, enseveli avec Jésus. La conclusion de l'histoire, après son baptême, l'eunuque poursuivit sa route dans la joie. Il avait obéi à l'Évangile et reçu le salut de son âme. Avez-vous droit à cette même joie? Qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé?
Le ciel éclate en sublime louange, chant glorieux, victorieux. Le paradis chante avec les saints anges l'hymne des bienheureux. Chante, chante à sa gloire, oui, chante l'histoire de son autre rançon. Oui, chante encore l'histoire de ses notre seule rançon. Vienne, remplace ce don merveilleux par les cieux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, il offre plein pardon dans les cieux. Ils chanteront les élus innombrables, purifiés, sanctifiés, le corps changé de mortel méprisable, encore glorifié. Chante seulement à sa gloire, oui, chante l'histoire de ce notre rançon, oui, chante encore l'histoire de ces notre salut, c'est notre rançon. Rien ne remplace ce don merveilleux par les cieux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, il offre plein pardon des cieux. Quel thème inspire une telle harmonie, c'est le salut que le valut. La mort de Christ, sa faveur infinie, mérite le tribut. Chante, chante à sa gloire, oui, chante l'histoire de son autre rançon. Oui, chante encore l'histoire de notre salut, c'est notre rançon. Rien ne remplace ce don merveilleux par les yeux. Saint efficace, Christ nous fait grâce, il offre plein pardon dans les yeux.